La journée finit bien sur Radio Lac
avec Benjamin Smadja.
Le Salon du Livre est officiellement lancé, on en a parlé, vous retrouvez d'ailleurs tout cela sur radiolac.ch avec des invités d'honneur et une nouvelle invitée d'honneur qui nous rejoint. Bonjour Elisa Chua du Sapin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur Radiolac. Une période très chargée pour vous, vous m'en parliez hors antenne.
Oui, effectivement, je reviens à l'instant d'un voyage de recherche en Moldavie, tout au fin fond de l'Europe de l'Est, près de l'Ukraine, donc c'était marquant. J'ai en parallèle repris la promotion de mon dernier roman pour tous les festivals francophones internationaux du printemps et surtout la promotion de la traduction en anglais de Vladivostok Circus qui m'emmène aussi assez loin sur les routes. Donc tout ça ensemble, ça fait pas mal de choses, mais ça va bien.
Et donc déjà une très belle œuvre, on l'entend. C'est justement de cela dont on va pouvoir parler avec vous durant le Salon du Livre.
Alors le principe pour moi en tant qu'invité d'honneur, c'était plutôt d'inviter des personnalités avec qui j'avais envie d'échanger parce que justement je les admire et que potentiellement elles m'inspirent. Donc je crois que ce sera moins... c'est clairement pas centré sur mon œuvre, mais plutôt sur le dialogue des personnes avec qui j'ai justement envie de partager. Donc, en l'occurrence, j'ai eu envie de faire la part belle à ces corps de métier qui sont parfois moins valorisés, comme les traductrices et les traducteurs, à qui moi je dois beaucoup, parce que je suis je suis largement traduite dans le monde entier, et ça, c'est notamment grâce à ces gens-là. Par exemple.
Qu'on se rende bien compte, ça implique quoi une fois que son livre part pour être traduit, va vivre sa vie ailleurs? Quel rôle est-ce que vous avez et quel, même d'une certaine manière, quelle emprise est-ce que vous avez? Est-ce que ça ne vous appartient presque plus après?
En effet, surtout que dans la grande majorité des langues de traduction, ce ne sont pas des langues que je comprends. Parfois, sur le livre, je ne sais même pas où est écrit mon nom et le titre du livre, parce que ce sont vraiment des alphabets, je ne sais pas, il y a vraiment toutes sortes de particularités aussi. Contractuellement, j'ai pas de droit en fait, sur les traductions, c'est vraiment une cession de droit. Et le traducteur ou la traductrice, si il ou elle le souhaite, peut prendre contact avec moi pour me changer. Ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, c'est merveilleux parce que là, ce sont des échanges tout d'un coup extrêmement denses avec quelqu'un qui essaye comme d'entrer dans la mécanique de la pensée créative qui a mené un texte. Et parfois, on me pose des questions qui me font revoir le texte vraiment autrement parce que ça m'oblige à réfléchir à des choses qui, au moment même de l'écriture pour moi, étaient complètement inconscientes ou intuitives.
Et ça fait quoi pour vous d'avoir un livre, une œuvre qui a une vie chez vous, qui après, je le disais, s'exporte au point de recevoir, par exemple, au hasard, l'une des récompenses les plus prestigieuses aux États-Unis, le National Book Award, c'était en 2021.
Il y a tout un mélange d'émotions qui sont un peu étranges à porter en public, c'est-à-dire une sensation de gratitude, mais à la fois l'impression de ne pas vraiment y croire, aussi parce que ça reste relativement abstrait, c'est très loin, enfin, c'est effectivement aux États-Unis. Et en même temps, quand je m'y rends et que je vois que oui, il y a tellement de gens qui se déplacent pour venir écouter une conférence ou venir faire signer des exemplaires, c'est bouleversant et ça rend peut-être d'autant plus consciente d'une forme de responsabilité de cette parole publiée qui est diffusée partout, puisque après, quelle que soit la culture, on peut me poser des questions, chercher à comprendre ce qui s'est joué dans tel ou tel texte, qui a pour le coup des résonances différentes selon les endroits du monde. Et ça, c'est vrai que ça aiguise ma conscience du travail.
C'est donc cette notion d'universalité que l'on va vous retrouver avec vous au Salon du Livre. Il y a d'abord face à la langue et puis également, parce qu'il faut en parler, de l'écrit à l'écran, parce que ce même livre dont je parlais à l'instant est maintenant devenu un film. Donc c'est une œuvre qui devient une autre œuvre basée sur votre œuvre. Enfin, je peux qu'imaginer tout ce qui se passe dans votre tête. Là encore, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qu'on va pouvoir retrouver avec vous au Salon du Livre.
Oui, j'ai eu la joie d'être encouragée à inviter les personnes qui ont travaillé autour de l'adaptation cinéma de mon livre, puisque cette année, le salon a un des volets de spécialisation qui est autour justement du cinéma. Et en l'occurrence, il y aura Koya Kamura, le réalisateur, et Stéphane Likion, qui est le scénariste, qui viennent les deux de Paris pour échanger sur le processus. un processus dans lequel j'ai pas participé à partir du moment où j'ai pu avoir des premiers contacts avec toute l'équipe, être rassurée sur le fait que j'ai eu l'impression qu'ils avaient vraiment compris en profondeur de quoi parlait le livre, et après ça, j'avais envie de lâcher complètement prise. Et ils ont fait quelque chose que j'ai trouvé profondément beau, admirable. Donc j'ai été rassurée et aussi vraiment admirative. C'est de loin pas toujours le cas pour les auteurs qui sont adaptés au cinéma, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc je crois une nouvelle fois très chanceuse de ça.
Avec notamment Roche Dizem, hein, l'affiche de ce film. Et à mon avis, enfin, moi je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'évidemment tout le monde dira: Ah, mais t'as pas lu le livre? Ah non, mais attends, mais le livre est mieux, parce que tu sais qu'ils explorent vachement plus la relation entre ci et ça et ci et ça. C'est toujours comme ça. On en parlait hier avec Léonie Bischoff, cela dit, de cette différence entre ce travail extrêmement solitaire qu'est celui d'écrire un livre et ce travail au contraire très collaboratif d'aller en parler avec des gens qui ont envie de venir à votre rencontre, comme au Salon du Livre.
Effectivement, c'est un exercice qui m'a rendue aguerrie quand même, parce que depuis 2016, je passe énormément de temps à le faire. Je ne peux plus compter le nombre de rencontres que j'ai pu avoir, vraiment partout dans le monde. Et en même temps, à chaque fois, je ne peux pas dire que c'est comme la première fois, mais par contre, l'intention et l'attention que j'y mets sont comme la première fois. C'est-à-dire que vraiment, je ne peux que être tellement sincère dans l'envie de répondre aux questions qu'on me pose. Et en ça, c'est vrai que mes réponses évoluent aussi, puisque j'évolue à chaque instant. Et je trouve très beau, en fait, ce dialogue qui se construit avec les années, avec un lectorat qui commence aussi à me suivre d'année en année, de livre en livre. Oui, je pense que je prends plus la mesure aujourd'hui de ce que ça peut signifier pour un lectorat de suivre l'œuvre d'un ou d'une auteure ou autrice. J'en étais pas consciente avant. Et c'est vrai que pour moi, alors c'est peut-être un peu étrange de dire comme ça, parce que moi, je vais assez peu, en fait, écouter des écrivains, des écrivaines parler, alors que je lis énormément. Mais c'est vrai que je crois que je reste beaucoup plus centrée sur le texte. Et je me dis toujours, mais qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir tirer de ce que je peux dire en direct? Je me trouve absolument inintéressante. Aussi parce que je passe tellement de temps justement dans la solitude à réfléchir au choix de chaque mot, et après ça me paraît un peu galvaud, un peu trivial d'essayer d'en parler comme ça, mais j'ai aussi compris que ce qui se joue dans ces dialogues directs, c'est au-delà du livre, c'est autre chose et c'est beau aussi.
Alors je vous rassure, hein, pour l'instant, moi je vous trouve intéressante. C'est un avis tout à fait personnel, mais
Merci.
mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en Suisse on aime et on reconnaît nos auteurs et nos autrices? Que vous avez quand même reçu des prix partout dans le monde, vous êtes traduite en 35 langues, c'est pas rien. Quelle est la relation que vous avez avec, j'allais dire le public suisse, mais avec la Suisse même d'une certaine manière?
C'est mon pays d'adoption depuis que j'ai 13 ans, l'âge auquel mes parents nous ont naturalisés. J'ai grandi dans le Jura suisse à partir de l'âge de 5 ans. J'ai fait le lycée. Ensuite, j'ai étudié à Bienne. Donc, je veux dire, je suis constituée en grande partie d'une forme de, je ne sais pas comment dire ça, de pensée suisse, qui est, je crois, façonnée notamment par la multiplicité des langues, qui sont malheureusement peut-être pas toujours en harmonie. Il y a quand même vraiment, je trouve que c'est un défi constant, cette question de tous ces cantons avec chacun une culture propre. Mais c'est aussi ce que je trouve très beau, c'est que ça nous oblige à être dans un dialogue permanent et à toujours chercher à comprendre l'altérité. Et je crois que ça résonne intimement en moi. Ça fait aussi que forcément, quand je sillonne le monde et que je reviens chez moi, c'est-à-dire assez rarement, j'ai quand même ce sentiment très fort d'être à la maison et d'être en plus, clairement, largement célébrée, reconnue, dans quelque chose d'à la fois intime et en même temps, je sens une forme de fierté du public suisse, du fait que je sois suissesse et que je le dis avec fierté ailleurs. C'est vrai que ça me porte. C'est quelque chose qui m'accompagne et qui me donne de la force quand je reviens me ressourcer chez moi en Suisse pour repartir.
Ce qui d'ailleurs, alors je le dis pour ceux qui nous écoutent, est précisément ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hein. C'est un petit stop à la maison, ce que vous me disiez avant de repartir sur les routes du monde. Elisa, je suis du Sapin. Est-ce que vous avez des souvenirs liés au salon du livre? Je ne vous cache pas qu'on en parlait aussi hier avec Noémie Bischoff, qui me racontait que voilà, elle avait découvert ses premières bandes dessinées là-bas. Est-ce que vous, il y a un lien?
Oui, bien sûr, il y a un lien peut-être plus distant, puisque elle, je crois qu'elle a grandi dans la région de Genève, ou peut-être à Genève même. Moi, c'est évidemment pas le cas. Donc, pour moi, au contraire, Genève, ça représentait le lointain de la Suisse romande. Et enfin, quand même, 3 heures de train. Et puis surtout, non seulement l'autre bout de la Suisse, mais aussi une ouverture sur tout ce qui était international. Je crois que j'avais vraiment cette image d'Épinal de la Genève internationale. Et la première fois que j'ai eu la chance d'aller au Salon du Livre, j'étais déjà adolescente. Et là, clairement, j'ai eu une sorte de choc de découvrir toute la multiplicité de ce qui se passait, en fait, des rencontres, des auteurs, des genres littéraires. Et je me rappelle vraiment d'une sorte de... Je sais pas comment dire ça, j'étais vraiment... Euphorique, je suis rentrée avec je ne sais pas combien de livres, mais l'impression aussi presque d'une forme de découragement à l'idée que jamais dans ma vie je pourrais lire tout ça, en fait, absorber toute cette production. Donc oui, ça m'a ébranlée. Je pense que ça a favorisé à nourrir ma passion pour tout ce qui est créatif, non seulement littéraire, mais aussi justement le dessin. Et pour l'anecdote, quand j'ai appris que j'étais invitée en tant qu'invitée d'honneur et que donc j'avais la possibilité de convier d'autres personnes, j'ai notamment pensé à Léonie Bischoff. Donc, comme les autres invités d'honneur étaient tenus secrets, Nine Simon, la responsable artistique, a été obligée de me dire en fait, elle sera aussi invitée de toute façon, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Alors, c'est une jolie anecdote qui fait que je me réjouis d'autant plus de retrouver Léonie à ce moment-là.
Heureusement que vous n'aviez pas pensé à Joël Dicker, parce que c'est le troisième invité d'honneur de ce salon du livre. J'ai une dernière question qui renvoie un petit peu à ce que vous me disiez. Et puis juste pour rebondir sur ce que vous venez de nous dire, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, et je le fais à chaque fois, à aller dans les bibliothèques qui sont des lieux magnifiques. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de la somme de choses qui existent. Vous avez tout à fait raison. Vous parliez de cette spécificité suisse. À chaque canton qui a sa culture, et pourtant il faut bien qu'on discute ensemble. Mais d'une certaine manière, c'est un peu la littérature, c'est quelque chose de très personnel qui parle à beaucoup de monde.
Je suis toujours empruntée quand il s'agit d'essayer de mettre des mots sur quelque chose qui définirait la littérature, la circonscrire, sans que ce soit ni galvaudé, ni
Oui, non, c'est pas une
réducteur.
universalité non plus, bien sûr, hein.
Mais non, non, je sais bien que ce n'était pas le sens de votre question, mais c'est plutôt que c'est un questionnement tellement intime pour moi de me demander justement pourquoi j'écris, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que signifie cet acte-là, quel est mon rapport de lectrice à ces livres que et vraiment j'ai pas d'autre réponse à part effectivement peut-être l'impression que comment dire ça, chaque texte que j'écris ou chaque livre que je lis, c'est une tentative d'être dans une meilleure compréhension à la fois de moi-même et du monde. Parce que au fond, je crois qu'il y a quelque chose d'universel dans chaque expérience individuelle, aussi différente en apparence soit-elle. Et quand je dis universel, c'est parce que je crois que le propre de la littérature, c'est de toucher aux émotions, à l'intuition, à l'empathie, dans le sens où on peut se mettre à la place de personnages et ressentir pour eux des émotions extrêmement fortes, comme si c'était nos proches. Et en ça, c'est merveilleux. C'est peut-être là que la littérature peut prendre le relais quand la politique atteint ses limites. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que là, ça commence à être grandiloquent et du coup,
Alors, je vais changer un peu le sens de ma question. Et si jamais c'est toujours compliqué en termes de sens, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Quelque chose qui me fascine toujours, comment est-ce qu'on sait qu'un livre est terminé? Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas revenir sur chaque phrase et dire, ah, peut-être ce mot, je vais le changer comme ci, je vais le changer comme ça, et dire, voilà, maintenant, monde, profite de ça.
Je vais répondre presque par une blague, après je peux être sérieuse un peu, mais je dirais que c'est quand on a passé tellement de milliers d'heures à travailler sur le texte qu'on n'en peut plus et que vraiment on a juste envie de le mettre au feu. Mais je pense que c'est à moitié un gag parce qu'il y a vraiment de ça. À un moment donné, on ne peut plus voir son propre texte et je pense que c'est effectivement la conjonction entre à la fois cette lassitude du travail mais aussi l'intuition profonde que c'est parce qu'on est arrivé à quelque chose. Et par contre, plus précisément, je ne peux pas le dire, c'est vraiment un truc qu'on doit sentir, on peut pas le savoir, enfin moi je peux pas le savoir de manière intellectuelle ni théorique.
On va vous retrouver durant ce salon du livre pour, je le disais, quelques tables rondes, des dédicaces évidemment. Donc notamment cette rencontre de l'écrit à l'écran où vous allez parler de l'adaptation de votre livre et puis face à la langue. Et je trouve ça très intelligent d'avoir fait quelque chose autour de la traduction parce qu'on lit toutes et tous énormément de littérature traduite et ce sont des auteurs de l'ombre qui ont beaucoup évolué parce qu'il y a encore quelques années, on était, je crois, payé à la ligne. Donc parfois les gens rajoutaient pour les romans de gare, les choses comme ça. Ça doublait le nombre de pages et qu'aujourd'hui on est passé sur quelque chose de très différent dans le respect du texte, mais qui change de pays en pays, ça doit être fascinant.
Oui, en l'occurrence, j'ai invité mes traducteurs anglais et anglaises et allemands, et ce sont vraiment deux personnes dont je suis très proche au niveau justement intellectuel dans ce travail de traduction et grâce à qui je dois beaucoup parce que je pense que notamment sans cette traduction anglaise, mon parcours n'aurait rien à voir avec celui qu'il est devenu. Et c'est Anissa, ma traductrice, qui a elle-même eu le coup de cœur pour le texte et l'a proposé à un éditeur. Donc c'est très fort tout ça. Et Andreas Sandel, mon traducteur berlinois, avec lui j'ai eu l'occasion de participer à des colloques de traduction avec d'autres de ses collègues et pu mesurer justement Mais la charge de travail que ça peut demander, parfois pour une seule phrase, il peut y avoir cinq traducteurs réunis dans la même pièce qui se questionnent pendant des heures pour savoir quel est le meilleur choix à faire. Et je trouve ça, pour moi, c'est tellement un cadeau de me dire que des gens travaillent autant sur un texte que j'ai écrit moi-même. Et du coup, ça vaut pour tous les textes traduits. C'est vrai que ça sensibilise à ça et ça permet aussi le rayonnement international des livres. Donc merci à eux.
Une réflexion toute bête, Le Seigneur des Anneaux qui connaît depuis quelques années une nouvelle traduction, donc comme ça vous pouvez le redécouvrir. Vous avez cité Andreas Yandel et vous avez parlé de Anissa, c'est Anissa Abbas Higgins qui est votre traductrice anglaise, je voulais lui rendre hommage avec son nom. Et vous êtes Elisa Chua du Sapin au Salon du Livre, l'une des invitées d'honneur. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'être sur Radio Lac.
Merci beaucoup à vous.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac,
la journée finit bien.